À Canalem, on aime l'été.
Bonjour tout le monde, ici Christiane Campagna en compagnie d'Emmanuel Robitaille. Bienvenue à cette édition du vendredi 13 juillet de Aime l'été. Emmanuel, aujourd'hui, tu vas nous parler de parentalité.
Je vous parle effectivement de parentalité. Je vous parle des enfants également, de surprotection aussi. On va recevoir à l'émission Yann, chercheur au Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Lui et son équipe vont mener une étude prochainement sur la santé des populations et les environnements urbains du Grand Montréal.
On parlera aussi à Bernard Gravel, propriétaire du vignoble La Grande Allée à Saint-Hyacinthe, qui est accessible non seulement pour les visiteurs, mais qui aussi embauche des personnes en situation de handicap.
On reçoit aussi Annick
Fillion. Ah oui, Annick Fillion, mais qui nous fait du mystère aujourd'hui.
On peut pas le dire, hein?
On le sait même pas.
Mais sa chronique s'appelle toujours « Sans tambour ni trompette », mais on sait pas quel instrument elle présentera aujourd'hui. Yannick Mainville, par contre, on sait qu'il viendra nous parler de sa chronique au Canada. Il nous parle de Moncton au Nouveau-Brunswick.
Et on terminera avec Maxime Despomerleau, qui encore aujourd'hui nous fait plusieurs suggestions de sorties culturelles.
Bienvenue à Aime l'été.
Un joyeux brouhaha, un chaleureux chahut nous retient autour d'une table à peau du ventre bien tendu. Les vieux finissent l'eau de vie tandis que les jeunes mangent leur pain blanc en chatouillant les petits qui s'étouffent en rigolant. Les repas le dimanche midi, comme je sais plus qui disait, le bonheur ça se trouve pas en lingots mais en petite monnaie. Une forte tête blonde termine sous la menace ses minuscules dés de viande en faisant la grimace. Il en donne un sur deux au chien, moi j'y vois clair dans son petit jeu. Il me supplie du regard, alors je ferme les yeux. Les repas le dimanche midi, comme je sais plus qui disait, le bonheur ça se trouve pas en lingots mais en petite monnaie. Le bébé en bout de table sur sa chaise d'arbitre surveille d'un œil abstrait l'arbre généalogique. Dire qu'on vénère tellement ce petit incontinent, la grand-mère l'embrasse en rital. Je vous jure que c'est mieux avec l'accent. Ça me rappelle quand on était gamin, on faisait nos prières en italien. J'ai longtemps cru que Dieu était rital, mais maintenant je sais bien qu'il est américain. On fait des dunes de sel pour aspirer les taches de vin rouge renversé et les sujets qui fâchent. Les vieux souvenirs de vacances roulent sur la nappe, les miettes de pain, les blagues plutôt grivoises, ça augmente les bouteilles de vin. Les repas le dimanche midi, comme je sais plus qui disait, le bonheur ça se trouve pas en lingots mais en petite monnaie. La prune, la poire, la cerise, on va siroter tout le verger. Le grand-père sort les cigares et se les fait tous taxer. Morceaux de sucre dans l'alcool, raffinement de gastronome. C'est la chasse au canard dans le mar de Bourgogne.
Les repas
le dimanche midi, comme je sais plus qui disait, le bonheur ça se trouve pas en lingots mais en petite monnaie, en petite monnaie.
Mmh.
À Aime l'été, vous entendiez La Petite Monnaie par Benabar.
Benabar, que tu as choisi personnellement, Christiane, parce que tu t'es gâtée, tu nous as gâtés pour l'émission d'aujourd'hui. Tu as choisi pas mal toute la programmation musicale.
Oui, à une exception qui est choisie par Maxime Pomerleau, parce que je m'en vais en vacances, alors je me suis gâtée avant de partir. Si vous avez des plaintes, vous écrivez à mon courriel.
Et ça sera la chance de lire sa réponse automatique. Qu'elle est en vacances et qu'elle ne peut pas lire vos courriels. Si jamais il y a des plaintes, profitez-en. Elle va en profiter du moins. Mais merci de nous avoir partagé ton monde musical qui est vraiment underground aussi. Toi, tu t'amuses beaucoup en dehors des balises par rapport à ça.
Ben moi, j'ai une formation musicale qui comprend notamment notre Maurice Bolduc ici, son époque de directeur musical à CIBL.
Ben écoute, avant ton départ... Je te gâte aussi et je te parle de parentalité, je te parle de surprotection, parle de nos enfants parce que, bon, c'est l'été, les enfants n'ont plus d'école, les enfants sortent, les enfants jouent dehors et je ne ferai pas ma fille qui vient de Québec qui dit « j'ose ». Les enfants jouent dehors et c'est sûr que c'est la saison des bobos et des égratignures. Et je vous parle de terrains de jeu qui sont pensés pour briser le cercle de la surprotection. C'est les Adventure Park ou parcs d'aventure. C'est l'initiative de plusieurs villes, dont New York, dont Calgary, mais un plus grand nombre encore en Europe. On parle de plus de 1000 parcs aventure en Europe actuellement. Et ces villes-là se sont mis à regarder la sédentarité des enfants et ils sont devenus inquiets et ils ont décidé de mettre sur pied des parcs de jeux où les risques calculés, les éraflures normales, dites saines, on va se le dire, sont de la partie. Ce sont des parcs qui sont mobiles, qui peuvent se déplacer d'un endroit à l'autre, donc, qui sont conçus principalement de pneus enflés, de tuyaux de plastique pour ramper dedans, de planches, de clous, de toutes sortes de matériaux. Bref, on dirait une cour à scrap, plus qu'un parc de jeux en plastique rond et lisse de couleurs vives, comme on est habitué de voir aujourd'hui beaucoup plus qu'autrement, on va se le dire. Et là-bas, les parents sont invités à regarder les enfants jouer à distance. Et les parents hélicoptères, qu'on appelle, vous savez, un hélicoptère, ça a une hélice, puis ça tourne un peu sur place au-dessus d'une zone là, pour atterrir ou quoi que ce soit, ben ça, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit d'être là si vous êtes un parent hélicoptère. Et le but, c'est bien sûr d'essayer de faire renouer nos enfants avec le goût de jouer en toute liberté. Le docteur Mariana Brussoni, qui est professeure associée au département de pédiatrie de la faculté de médecine et de l'école de santé publique de l'Université de Colombie-Britannique, qui est un très long nom, souligne l'importance de procurer aux enfants des outils qui non seulement leur permettent de créer leur propre univers, mais également qui sont absolument cruciaux pour stimuler la créativité, leur inculquer ce qui est une saine gestion du risque, parce que des risques, il y en a. Et moi, je suis de cette école où ce que tu ne peux apprendre, tu n'es pas outillé. Là. Je pense que c'est intéressant de voir que mon enfant ou l'enfant de ma sœur, mon fiole, mon neveu, ma nièce, vont être capables, de manière relativement supervisée, apprendre à gérer leur environnement naturel. On se comprend? Et c'est pourquoi ces enfants-là, dans les parcs aventures, peuvent allumer des feux.
Okay.
Si j'avais vu, tes yeux présentement.
La tante en moi est déjà pas sûre d'être d'accord.
C'est vrai? Ils peuvent allumer des feux, faire des barrages, jouer avec des outils sous la supervision d'un intervenant de jeu.
Ah, okay.
Un intervenant de jeu qui n'est pas là pour garder, tasser, interdire, mais bien assister, démontrer, apprendre. Et bien sûr, on n'est pas rendu dans la jungle et le survivant. Là. On n'est pas dans Survivor. Donc, nécessairement, on veut que les enfants puissent retrouver une certaine liberté avec une certaine supervision nécessairement. Et cette nouvelle conception de jeu qui carbure à l'adrénaline vise à contrer l'impact de la lente disparition du jeu libre de la vie des enfants. C'est un déficit susceptible de nuire à plusieurs choses, dont au développement des habiletés physiques, sociales, notamment de l'autonomie, de l'estime de soi et de la capacité de dépassement de l'enfant. Et quand on regarde à Montréal, il y a des discours qui se tiennent tels qu'il est préférable d'interdire les arbres fruitiers ou à épines dans les cours d'école.
Okay.
Je me dis que l'initiative d'un parc aventure serait tout à fait nécessaire ici aussi. C'est quand même ça.
Oui, et où on est vite sur la culpabilité d'un... Moi, je connais quelqu'un qui est travailleur autonome et qui a amené sa fille au parc et a jeté un coup d'œil à ses courriels et a senti tous les regards jugeant le fait qu'elle regarde.
C'est très difficile d'être un parent. Aujourd'hui, on se rappelle aussi sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si tu l'avais vu, ou si vous l'aviez vu à la maison, c'était une maman qui était dans un aéroport et elle lisait un livre et son bébé était couché, c'est un bébé de 6 mois peut-être, couché sur une couverte à ses pieds et la dame avait le nez dans son livre, mais là, elle était sur tous les réseaux sociaux jugée comme une mère ingrate. Je me dis, qui a pas lu un livre dans une salle d'attente avec son enfant éventuellement un jour dans sa vie? T'sais? Donc, on est vraiment rendu là. Donc, parc aventure, moi, je considère que c'est très, très important parce que ces enfants-là doivent déployer leurs ailes également. Je pense pas que ce soit réaliste de penser qu'on peut être toujours à leur côté. On est fatigué, on est tous des humains, tu sais. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas nos enfants, ni qu'on leur veut du mal. Et au contraire, on les aime et on veut les comprendre. Et là, je vous parle de quelque chose d'assez nouveau pour assurer la connexion entre parents et bébés. C'est une nouvelle application qui utilise l'intelligence artificielle et qui aide les parents à savoir pourquoi leur bébé pleure. Ce qui est très intéressant, c'est que le Chatter Baby, c'est comme ça que ça s'appelle, Chatter Baby, C-H-A-T-T-E-R Baby, B-A-B-Y, peut indiquer aux parents qui vivent avec un problème de surdité à savoir si leur bébé pleure.
C'est très intéressant.
Et non seulement ça, mais à l'aide de l'intelligence artificielle, l'application analyse le pleur du bébé et dit également pourquoi il pleure. Donc, on pèse sur un micro, un peu comme Shazam. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Shazam. Vous écoutez une publicité, vous ne savez pas c'est quoi cette chanson-là. Vous êtes dans un restaurant, la musique joue. Vous pèsez sur un petit micro sur l'application Shazam et là, ça vous trouve la chanson. Ben, c'est un peu la même affaire. Mais cette fois-là, on analyse le pleur du bébé. On regarde la fréquence qui est présente dans le pleur, mais pas juste dans le pleur, on regarde également la fréquence de son et de silence, suite à quoi l'application démontre un taux potentiel relatif soit à la douleur, à la faim ou encore à une simple irritabilité à l'aide d'un diagramme à bande. C'est super bien fait, c'est visuel. Et bien sûr, cette application-là ne s'adresse pas seulement aux parents vivant avec une surdité, mais à tout nouveau parent qui pourrait se sentir insécure, qui pourrait trouver difficile de comprendre le bébé. Et bonne nouvelle, Chatter Baby est disponible gratuitement sur iPhone et Android maintenant. Donc, à tous ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés à essayer le Chatter Baby, qui sont curieux, vous pouvez tout de suite le télécharger à l'heure où on se parle. Et je vous parle rapidement de la Suède parce que mon amour pour les pays nordiques, leur innovation, leur audace, leur vision, ce sont des visionnaires, changent les systèmes gouvernementaux, économiques, sociaux, scolaires, tout ce qu'on voudra. Et je les admire pour ça. Et c'est un des meilleurs pays au monde pour être parent. Je vous dis pourquoi. On peut prendre jusqu'à 480 jours de congé. Les congés peuvent être séparés de manière équivalente.
Pas par an, il y a 365... Jour?
Oui. Okay. Oui! 10 morceaux de robot pour toi, okay. Christiane! C'est bel et bien. 365 jours, donc on parle jusqu'à quasiment un an et demi. Okay. Là. Oui, les congés peuvent être séparés de manière équivalente. Okay. Donc 50 pour 50 entre papa et maman. Un minimum, je répète, un minimum de 3 mois de repos doit être pris par les nouveaux papas. C'est merveilleux.
Chose.
Les parents d'enfants de moins de 8 ans bénéficient d'horaires de travail allégés. Les parents peuvent rester à la maison pour assister un enfant malade et toucher 80 % de leur salaire. Et les places de crèche sont subventionnées par le gouvernement et ceux qui sont le plus dans le besoin sont ceux qui reçoivent le plus. Et la Suède est classée le meilleur pays au monde en frais de garde d'enfants et en deuxième place après les Pays-Bas pour les familles en général, un pays sur lequel on peut encore s'inspirer, encore et toujours et toujours.
Merci beaucoup, Emmanuel.
Ça me fait plaisir.
On a des ailes, mais on n'est pas des anges, que des oiseaux de paradis artificiels. On vole de nuit, on va de branche en branche, immigrants illégaux du septième ciel. On plane dans un brouillard épais, au
mépris de la loi de Newton. Accroché aux manches à balai, comme feu le baron von Richthofen. On chante mais on n'est pas des enfants de cœur, que de beaux merles promis aux mâts de misaine. Les jeux interdits on les sait par cœur, mais on a de l'oreille que pour le chant des sirènes. Et quand sonne l'appel de détresse, aux uns qu'à tire d'elle on réplique, trinquer à la santé de l'orchestre qui jouait sur le pont du Titanic. Des ailes, mais on n'est pas des anges, et notre ciel, on le gagne du mieux que l'on peut. Mais quand on sent nos cornes qui nous démangent, on se dit que Saint-Pierre peut bien attendre encore un peu. L'éternité nous fait sourire, et même si l'enfer se rapproche, chez seul nous fait courir, et l'argent nous brûle les poches.
Stephen Faulkner nous chantait « Oui, on n'a pas des ailes. On a des ailes, mais on n'est pas des anges. »
Merci beaucoup, Maurice Bolduc, à la mise en onde. Et maintenant, studio avec nous, Yann Kestens. Est-ce que je prononce bien votre nom?
Très bien, oui, parfait.
Donc, qui est chercheur au Centre de recherche du CHUM et qui vient nous parler d'une toute nouvelle étude dont l'abréviation est INTERACT, Intervention urbaine, recherche, action, communauté et santé, et qui porte sur les populations et les environnements urbains, en fait, sur le lien entre les deux, sur la santé de la population et les aménagements urbains. C'est bien ça?
En français, mettons, ça veut dire quoi?
En français, ça veut dire quoi, oui. Alors, c'est une étude, effectivement, qui rassemble plusieurs chercheurs à travers le Canada. Et l'idée, c'est de mieux comprendre les liens entre les changements dans la ville et la santé des populations. Alors, on peut dire que la ville, elle change constamment. On investit dans des nouvelles routes, on met en place une piste cyclable, etc.
Mais on ne sait pas trop si ça marche, cette affaire-là.
Exactement, ouais, c'est un petit peu ça la question. C'est tous ces investissements qu'on fait dans nos villes, la manière dont on transforme nos milieux urbains, finalement, quel impact ça a sur la santé des populations? A priori, c'est des leviers importants, potentiellement, pour améliorer les choses, pour améliorer la qualité de vie, pour améliorer le bien-être. Mais c'est rarement étudié, finalement, l'impact. Alors, le projet Interact, c'est finalement un petit peu ça l'objectif. C'est d'analyser les changements dans les villes et de comprendre les liens sur la santé. Et on a 4 villes actuellement qu'on regarde un petit peu plus précisément.
À part Montréal, quelles sont les autres villes?
Alors, on a Vancouver, en Colombie-Britannique, on a Vancouver et Victoria. où on s'intéresse plus spécifiquement à des aménagements de type cyclisme et transport actif. Alors à Victoria, c'est un réseau cyclable qui est mis en place. À Victoria, c'est le Arbutus Greenway qui est un axe de transport vert, si je peux dire, un parc linéaire qui est mis en place aussi. Et on a aussi Saskatoon, en Saskatchewan, où on regarde l'impact de l'implantation d'un système de bus rapide, Rapid Bus Transit. Voilà, c'est ça les trois autres villes, à part la région de Montréal.
Bon, salut, s'il y a des gens dans ce coin-là qui nous écoutent, puisqu'on est distribué un peu partout au Canada, oui. Bon, on les salue. Donc, l'objectif d'une recherche comme ça, au fond, c'est d'éclairer ensuite les décisions prises pour améliorer la santé?
Exactement, c'est vraiment une recherche-action, une recherche interventionnelle qu'on dit aussi. Donc, les interventions, ce sont les changements qui ont lieu dans la ville. Et bien sûr, ces changements sont mis en place par des décideurs, par des politiques. Et donc, si on peut mieux comprendre comment ces interventions influencent ou améliorent la santé des populations, on pourrait guider les décideurs vers des décisions peut-être un petit peu plus efficaces pour demain. Donc, c'est vraiment une recherche orientée vers les solutions, en fait.
Exactement. Donc, ça ne sera pas comme « oui, ce que vous avez pris comme décision, ça fonctionne » ou « non, ça ne fonctionne pas ». On va offrir des pistes de solutions, des pistes d'amélioration également.
Exactement. Okay. Je dirais que finalement, on pourra peut-être, notamment dans la région de Montréal, où on s'intéresse un petit peu à tous ces changements dans le cadre urbain, on pourra peut-être identifier des combinaisons d'interventions, parce que souvent, ce n'est pas juste une intervention qui peut avoir un impact important, mais peut-être une combinaison d'interventions. Et donc, on pourra peut-être, grâce à nos travaux, on pourra certainement guider les décideurs vers des cocktails, si je peux dire, d'interventions qui sont plus efficaces.
On parle depuis tout à l'heure d'aménagement, d'intervention. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de choses qu'on veut mesurer, de types d'aménagement dont on parle?
Oui, bien sûr. Et en fait, peut-être je pourrais commencer par mentionner les domaines d'intérêt en termes de santé.
Oui.
Ça va nous permettre de comprendre un peu mieux le rôle des aménagements. Donc, on s'intéresse principalement à trois domaines. La question de l'activité physique, la participation sociale, donc tout ce qui est interaction sociale, le sentiment d'appartenance, des choses comme ça. Et aussi le bien-être, qui sont les trois dimensions qui nous intéressent. Et on sait par ailleurs qu'il y a certains travaux qui ont montré que les environnements dans lesquels on vit, les environnements sociaux ou bâtis, physiques, environnementaux finalement, les caractéristiques environnementales de où on vit, peuvent avoir une influence sur ces dimensions. Donc par exemple, si on parle d'activité physique, bien sûr tout ce qui est transport actif, c'est directement lié à l'activité physique. On a fait des travaux là, avec des collègues en France notamment qui montraient que plus d'un tiers de notre activité physique quotidienne est liée au transport en fait. Donc bien sûr le transport actif est une source importante et potentiellement importante d'activité physique. Donc tout ce qui est aménagement qui favorise par exemple l'utilisation du vélo, les pistes cyclables ou encore des nouvelles lignes de métro par exemple. Ça, c'est des exemples d'aménagement qui peuvent avoir un impact.
Vous allez étudier sur quelle période?
Alors, on recrute actuellement notre première vague, hein, donc c'est une étude longitudinale.
Parce que c'est vraiment beaucoup de gens que vous voulez avoir dans votre étude.
Alors, je dirais qu'on est assez ambitieux, mais on est à la hauteur des ambitions de la région de Montréal aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, pour pouvoir décortiquer un petit peu ces effets locaux, il faut qu'on ait un échantillon assez large,
assez
grand.
Et là, on parle de 10 000 personnes.
Voilà. Alors, dans la région de Montréal, en fait, c'est l'île de Montréal, la ville de Laval, Longueuil, Brossard et Saint-Lambert qui font partie du territoire d'études. Mm-hmm. Dans ce secteur-là, on cherche 10 000 personnes et on les appelle des citoyens scientifiques aussi. Là. C'est aussi un peu l'idée, c'est d'engager les gens dans une démarche qui nous permet d'obtenir des données qui peuvent aider les décisions de demain.
Qu'est-ce que ça implique pour les gens qui vont se porter volontaires? Qu'est-ce qu'ils devront faire?
Alors, donc l'idée, c'est vraiment de s'engager à long terme puisque on veut les revoir finalement dans 2 ans et éventuellement encore dans 4 ans. Hein. Mm-hmm. Donc, on va répéter les mesures comme ça. La formule de participation est, je dirais, diverse. Au minimum, à minima, il faut remplir des questionnaires en ligne. Donc, c'est assez simple. On a des questionnaires en ligne qu'il faut remplir. Voilà, ça dure à peu près, il faut compter à peu près 1 heure de contribution. On peut aller et venir, hein, ça n'a pas besoin d'être fait tout en une fois. On peut faire 10 minutes par-ci, 15 minutes par-là. Ensuite, la deuxième option, c'est aussi de télécharger une application sur téléphone intelligent. Donc, on a une petite application qui collecte des données en arrière. Là, c'est discrètement, ça collecte des données sur la mobilité, donc des données GPS, et sur l'activité physique. Donc ça, c'est la deuxième option. Et si vous êtes bien motivé, vous pouvez aussi participer en utilisant un petit appareil qu'on fournit et qui est porté à la hanche et qui, là aussi, fournit des mesures très précises de mobilité et d'activité physique.
Comment on fait pour s'inscrire si jamais on est intéressé?
Alors, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site équipeinteract.ca/Montréal et toutes les informations sont là pour s'inscrire.
Nous mettrons un lien sur la publication qui va venir avec l'émission d'aujourd'hui sur notre site web.
Excellent, merci.
Tout à fait. Et félicitations pour votre vision et aussi de s'intéresser à des aussi grands enjeux économiques et sociaux, parce que là, vous m'avez parlé de bien-être également et on va se le dire, c'est quelque chose qui est peu tangible. Donc, de s'intéresser à plusieurs formes de santé, qu'elles soient psychologiques, émotionnelles, sociales ou physiques, c'est vraiment général, c'est très inclusif, c'est très... c'est systémique, là, je vais le dire comme ça, et holistique. Alors, félicitations pour votre étude, et j'espère que les gens vont participer en grand nombre.
Bien, je l'espère
parce
aussi.
Que grand nombre est nécessaire.
Exactement.
Alors, Yann Kestens, chercheur au CHUM, merci beaucoup pour votre participation à MLT.
Merci à vous.
J'ai envie, parlant d'activité physique, de vous inviter à aller à la plage.
Mon domaine préféré. J'excelle.
Parce que je me suis rendu compte qu'à la plage Jean Doré à Montréal, les mercredis sont gratuits tout l'été pour les enfants de 13 ans et moins à l'achat d'un billet adulte avec un maximum de 3 enfants par adulte. Vous pouvez aussi aller à la plage au Cap-Breton, à la plage d'Inverness, puisqu'elle est maintenant... accessible, on fournit des fauteuils spéciaux, on a une rampe, et c'est aussi le cas à la plage Aldiman en Gaspésie. Alors voilà des aménagements qui vont permettre à plusieurs personnes d'avoir une activité physique et une activité sociale.
Et on parle d'aménagement, on parle de ville. Moi, je suis moins dans les activités physiques. C'est vraiment pas mon domaine. Par contre, sur le plan des villes et des aménagements, je peux vous dire que la ville de Londres sera alimentée par de l'énergie 100% renouvelable dès le mois d'octobre. C'est l'utilisation de panneaux solaires sur tous les buildings gouvernementaux et le moyen principal pour y arriver. Je trouve que c'est une très, très bonne nouvelle.
On se revoit tout de suite après.
Vous écoutez Aime l'été.
Vous êtes toujours à Aime l'été, Emmanuel Robitaille avec vous, accompagné de Christiane Campagna. Et dans la prochaine partie de l'émission, on reçoit à l'émission Bernard Gravel, propriétaire du vignoble La Grande Allée à Saint-Hilaire. Et Annick Filion nous propose, oui, son reportage vivant, sa chronique sans tambour ni trompette.
Pour passer notre temps.
Amis, buvons, caressons la bouteille pour passer notre temps.
Un bon buveur, c'est l'ami de la bouteille. Le soir et le matin, à moi, il me dit à l'oreille:
j'aime la bouteille, moi, j'aime la bouteille.
Et tous ces vieux garçons qui s'en vont voir les filles disent qu'ils sont des fous.
Et tous ces vieux garçons qui s'en vont voir les filles sont des fous.
Mais moi je dis qu'ils cherchent leur avantage. Je les trouve sages, moi, et dans le bord du village.
J'aime la bouteille, moi, j'aime la bouteille.
Et vous, mon bon papa, qui vivez à votre aise, vous êtes mariés.
Et vous, mon bon papa, qui vivez à votre aise, vous êtes mariés.
Quand vous voulez que maman vous embrasse, parler, moi dans ma chambrette,
je flatte en cachette, moi dans la petite cabinette.
la regarde, je lui fais les yeux doux.
Quand je reviens de l'ouvrage, souvent je la regarde, je lui fais les yeux doux. En lui disant, la belle, je vous aime. Je vous trouve belle, moi, je vous trouve belle. J'aime la bouteille, moi, j'aime la bouteille. Je vous trouve belle, moi, je vous trouve belle.
D'entendre le vent du Nord qui nous chantait Le Bon Buveur.
Un disque enregistré au spectacle Mémoire et au festival, pardon, Mémoire et Racine qui se déroule à Saint-Charles-Borromée à la fin juillet et où j'irai faire un tour encore cette année pendant mes vacances.
Pendant tes vacances, hein, c'est ça. Projet de vacances. Tu nous parles de routes accessibles aujourd'hui, Christiane.
Oui, encore une fois, des sorties touristiques pour tous. Et aujourd'hui, on parle à M. Bernard Gravel, propriétaire du vignoble La Grande Allée à Saint-Hilaire. Bonjour, M. Gravel.
Bonjour à vous. Comment allez-vous?
Je vais très bien. Et vous?
Oui, très bien.
Alors, votre vignoble, il est situé à Saint-Hilaire, à Montérégie. Il est non seulement complètement accessible aux visiteurs ayant un handicap, mais aussi vous n'embauchez que des gens qui vivent avec une limitation fonctionnelle. C'est bien ça?
Oui, qu'on appelle communément personnes handicapées, autant physiques qu'intellectuelles.
Depuis quand est-ce que votre vignoble existe? Quand est-ce que vous êtes lancé dans cette aventure?
On peut dire que l'aventure a commencé en 1994, mais la nouvelle propriété sur le chemin Pion à Saint-Hilaire, ça a commencé en 2004.
Et le vignoble est ouvert au public depuis quand?
Depuis le mois de mai 2017. Ça fait déjà 14 mois qu'il est ouvert au public.
Et est-ce que depuis le début, dans votre programme, vous comptiez n'embaucher que des personnes en situation de handicap?
Oui, c'est en plein ça. C'est la mission de l'entreprise, parce que dans ma famille, j'ai des personnes qui ont des limitations assez sévères. Et pour moi, c'est une façon aussi de donner à l'ensemble de la population qui ont des limitations l'opportunité de travailler et de s'ouvrir à la société, parce qu'ils peuvent se développer ici grandement.
D'accord.
C'est un milieu qui est favorable.
Et pour l'embauche de vos employés, vous faites affaire avec un organisme?
Nous travaillons en collaboration avec le CEMO-SDEM. Le bureau chef est à Longueuil. Cet organisme s'occupe de l'intégration des personnes qui ont des limitations. On peut parler d'autisme, ça peut être toutes sortes de problématiques. Et nous sommes avec eux depuis 2011.
D'accord. Et maintenant, si on va vous visiter, on va parler un petit peu de vos services. Parlez-nous d'abord de vos vins. Qu'est-ce que vous avez comme vin pour nous?
Présentement, nous avons 5 vins. Un vin blanc, 2 vins rouges et 2 vins fortifiés. Le vin blanc porte le nom de l'envolé. Toutes nos étiquettes et notre emblème ici, c'est le papillon. L'envolé représente les personnes handicapées. Ils ont un endroit pour prendre leur envol. Tous les autres vins sont en relation avec la Vallée des Patriotes. Donc, le vin rouge qui est fruité s'appelle le 1837. Le rouge boisé s'appelle la Rébellion. Le fortifié ambré ou rosé s'appelle le Patriot. Et le fortifié qui est rouge à 18,5%, s'appelle le Bastion. Pour résumer, vous êtes dans le Bastion des Patriotes qui ont fait la rébellion en 1837.
Et si on va faire un tour chez
c'est
vous,
bon.
On peut vous offrir des dégustations en boutique?
Oui, nous offrons des dégustations. Il y a toutes sortes d'activités. À titre d'exemple, ce soir, il y a une soirée de slam en collaboration avec Slam Québec. Nous avons toute la fin de semaine un ou des sculpteurs sur deux chapiteaux à l'extérieur. Il y a des gens qui tombent du bois, ce sont des artisans du bois qui sont à l'extérieur. Demain, nous avons un vin et fromage qui est organisé par un groupe de personnes aveugles et malvoyants. Il y a tout le temps des activités, et puis on le fait pour le plaisir des gens aussi.
Et c'est aussi un endroit où on peut aller organiser des réunions ou des fêtes?
Oui, nous avons une salle qui a environ 600 pieds carrés, puis on peut recevoir des groupes. Il y a des cours qui se donnent ici régulièrement, fait qu'on peut recevoir pour diverses activités. Donc, ça peut être l'âge d'or, par exemple, qu'ils ont des réservations, ils font leur conseil d'administration au vignoble. On travaille avec l'association Personnes handicapées Vallée du Richelieu. Ils font leur réunion ici. On travaille avec beaucoup d'organismes.
Et vous avez aussi les bleuets et le miel, si je ne me trompe pas.
Oui. Les bleuets, cette année, la saison, c'est pas notre meilleure saison. Et puis, nous n'ouvrons pas au public parce qu'on n'a pas assez.
D'accord.
À cause des effets du gel de l'an passé. Et concernant le miel, nous avons une douzaine de ruches à la propriété qui sont. Et la personne qui s'en occupe, c'est une Colombienne qui a reçu sa citoyenneté canadienne l'an passé. Elle est vétérinaire de formation et au Québec, bien, elle s'est lancée en apiculture. Donc, c'est sa passion et ça nous permet d'avoir du miel qui est produit sur place.
Quand on parle d'accessibilité de vos installations, c'est pas seulement la boutique, c'est toutes vos installations qui sont accessibles. Et d'ailleurs, vous avez une certification qui roule et vous prêtez même des quadriporteurs.
Nous avons deux quadriporteurs. Bien, nous avons Madame Privé, qui travaille pour nous, a son quadriporteur, elle a son chien Miro aussi. Donc, son quadriporteur est ici. Et nous avons fait l'acquisition d'un quadriporteur aussi l'an passé. Donc, il y a des gens qui passent à l'occasion, qui viennent nous voir et peuvent aller faire une balade sur le terrain en quadriporteur.
D'accord. Pour les gens qui voudraient aller vous visiter, c'est quoi vos heures d'ouverture cet été?
Durant l'été, de 9h jusqu'à 5h.
Oui.
Puis les fins de semaine, on peut aller jusqu'à 18h.
Est-ce que c'est 7 jours sur 7?
Oui.
D'accord.
Je dis oui. Durant la période estivale, c'est 7 jours sur 7.
D'accord.
Rendu à l'automne, les lundis, mardis sont réservés pour le travail, les travaux généraux sur le terrain et dans la boutique.
Alors, si on veut des renseignements, si on veut réserver, est-ce que vous pouvez nous donner votre numéro de téléphone?
Le numéro de téléphone du vignoble est le 450-446-6820.
Et le vignoble a aussi un site web?
Oui, un site web. Si vous allez vous inviter les gens à aller sur le Facebook, il y a beaucoup de mises à jour et puis les gens sont informés. On informe les gens des activités, etc.
Mais merci beaucoup, M. Gravel, pour cette invitation. Oui?
Nous avons aussi une galerie d'art. Une galerie d'art à tous les deux mois, il y a différents artistes qui se rajoutent. Donc, les lieux sont passés gratuitement pour les artistes de la région pour qu'ils viennent exposer leur œuvre, que ce soit de la peinture, de la sculpture, du vitrail ou de la photo. C'est une galerie d'art qui est ouverte et c'est gratuit.
Donc, c'est bon pour les papilles et c'est beau pour les yeux. C'est super intéressant, ce vignoble.
Toutes les raisons de se déplacer à Saint-Hilaire, au vignoble La Grande Allée. C'était Bernard Gravel, propriétaire. Merci.
Merci, au revoir.
Bicyclette de l'île, rouler sur l'aube jusqu'à moi l'écran, l'élan, ma grange, mon cinéma. L'amour et la roue brève et belle, lèvres et peau parfumées, jusqu'à moi l'ivresse pas à pas. L'été, l'été, que vient l'été. Près des battures du jour
et des marais salants
à la fenêtre, tu rêves mon grand désir, échant cheveux fauves de lumière
jusqu'à moi l'horizon
doué d'un corps avec tant de vagues heureux sur moi, le ciel est mon île, le vent ondule pas à pas l'odeur, l'été, l'hiver, bel animal. La nuit se voix frémissante, on garde à vous des ombres, jusqu'à moi l'étoile pas à pas, l'été, l'été, l'éternité.
Chloé Sainte-Marie qui nous interprétait « La route, l'île et l'été ».
Et Yannick Filion qui est avec nous pour sa chronique « Tambour et sans tambour ». Sans tambour ni trompette.
Sans tambour ni trompette.
J'aurais dû te laisser l'intro le dire. Ça aurait été plus simple, ça aurait évité tout. Alors, bonjour Annick.
Bonjour. Bonjour. Alors, donc, cette semaine, on poursuit notre série de chroniques sur les instruments inusités, aux sonorités un peu moins connues, parce qu'ils proviennent d'une autre culture, d'un autre temps. Alors, on a déjà rencontré Ziad Abassian, joueur de tambak, un instrument provenant de l'Iran. Ensuite, on a fait une incursion dans la culture japonaise avec Bruno Deschênes, joueur de shakuhachi, une flûte de bambou. Et aujourd'hui, on combine Moyen-Âge et modernité, avec Daniel Tonon comme guide. Alors, Monsieur Tonon...
Oui, Monsieur Tonon.
Alors, Monsieur Tonon, c'est un musicien, un compositeur et un facteur d'instrument. Bon, alors, je ne parle pas ici de facteur postal.
Non, c'est
non?
Ça.
C'est quelqu'un qui les fabrique.
Et le livre de la musique, et non pas des lettres.
Ben
voilà.
Oui, c'est ça. Alors, donc, il les fabrique, il les restaure ou il les accorde. Et M. Tonon, vous allez le découvrir, c'est un homme fascinant. Un touche-à-tout qui semble avoir eu mille et une vies. Vraiment. Il nous parle aujourd'hui de sa... Ah, non. Alors, aujourd'hui, je ne vous le dis pas.
Ah, c'est pas vrai.
Ah non, c'est une surprise. Et... Et je vous convie à écouter donc le reportage et à essayer de découvrir l'instrument que M. Tonon nous présente. Portez attention au tout début.
Aujourd'hui, j'ai troqué mon vélo pour l'auto, car je rencontre Daniel Tonon, qui habite un endroit charmant sur le bord de l'Ayamaska, à une heure de Montréal. Saurez-vous découvrir quel est son instrument?
C'est un instrument qui date quand même du 12e siècle, à peu près. Au départ, c'était un instrument religieux, aux alentours du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle.
Bonjour, monsieur Tonon. Bonjour, enchanté. Bonjour, Dominique.
Après ça, ça a été un peu éjecté de l'église, et puis c'est devenu un instrument populaire, un instrument de danse. Et après ça, un instrument de cour. Et après ça, de nouveau un instrument populaire, un instrument de mendiant. Et actuellement, un instrument d'à peu près n'importe qui.
À cheval entre la guitare, le violon et la cornemuse, la vielle à roue est un instrument fascinant et complexe qui se mélange bien à plusieurs styles musicaux. J'étais loin de connaître l'ampleur des différentes sonorités de la vielle. Daniel Tonon, vielleux, facteur d'instruments atypiques, compositeur et bon joueur de plusieurs autres instruments, nous dévoile aujourd'hui les secrets de la vielle.
C'est une caisse de résonance, comme un violon, comme une guitare, tout ça. Sauf qu'on n'emploie pas, au contraire du violon, on n'emploie pas d'archet, on emploie une roue. C'est pour ça que ça s'appelle la vielle à roue. C'est une roue qui remplace l'archet. C'est comme un archet circulaire. Ça fait qu'avec la main droite, on tourne une manivelle et la manivelle actionne la roue qui frotte les cordes. On emploie les doigts sur un clavier qui, lui, va toucher les cordes.
Un des grands avantages de la vielle à roue,
c'est quand vous surveillez votre poids, vous pouvez savoir tout de suite si vous avez grossi ou pas.
Oui, parce qu'il faut l'attacher à l'entour de la taille, hein, c'est ça que...
Donc, au départ, le bourdon. Avec un petit bruit parasite qui vient du fait qu'on vient de se rendre compte qu'il y avait un chevalet qui avait décollé à cause des grandes chaleurs. C'est lui qui fait ce petit bruit. Bon, ça c'est un bourdon. Il y en a trois, quatre même. Je peux en mettre un autre. Voilà, deux bourdons. Un troisième. Bon, voilà... tout un vol de bourdons. Bon. Un des bourdons, le dernier que j'ai installé, c'est ce qu'on appelle la trompette. Parce que quand on donne une accentuation dans la façon de tourner la manivelle, ça fait une vibration qu'on utilise pour faire le rythme.
Mais qu'est-ce qui a mené Daniel Tonon à la vielle?
Bon, moi, j'ai commencé, mon père était pianiste de jazz, mais il était pianiste et il accompagnait des chanteurs comme Léo Ferré, comme Barbara, des gens comme ça, qui venaient à la maison. Il avait un groupe de jazz et il répétait dans ma chambre à coucher. Fait que je suis vraiment tombé dedans quand j'étais petit. Et finalement, j'ai décidé de faire le conservatoire. Et puis je suis allé à Genève, en Suisse, où j'ai passé 4 ans. Et puis après ça, j'ai vécu en France pendant 10 ans, et puis en Algérie, et puis en Espagne, et puis de nouveau au Québec. Ce qui fait que la musique ancienne, mais quand j'étais en France, je faisais de la musique du Moyen-Âge. Mais je jouais déjà du rock and roll à côté. Puis j'ai joué de la vielle à roue avec à peu près tout le monde, toutes sortes de styles différents, je veux dire de Pink Floyd à la musique ancienne, à la musique baroque, en musique folk, musique mexicaine, musique bluegrass, en musique cajun, n'importe quoi.
Et qu'aime-t-il particulièrement dans la sonorité des vielles?
C'est un son qui rentre dans les tripes, dans la terre, qui est parfois sombre, mais qui est vraiment animal. C'est un instrument qu'on joue attaché autour de la taille, donc les vibrations rentrent vraiment dans le corps.
En plus de jouer et de composer, Daniel Tonon a fabriqué 59 vielles, dont 3 pour le groupe Pink Floyd. Mais ça fera partie d'une autre histoire. D'ailleurs, chaque vielle a sa petite histoire.
J'ai toujours une petite histoire qui vient avec chaque instrument. Celui-ci, c'est 59e vielle sortie de mon atelier. Il n'y en aura point d'autre, je suis trop vieux. Si vous en voulez une, faites comme moi, faites-la vous-même. Terminée en avril 2017 à Farnham, province de Québec, Canada. Daniel Tonon, luthier, musicien, est maintenant définitivement retraité.
Avant que je reprenne la route, il m'a fait entendre une pièce sur un CD. J'étais médusée. Et vous, auriez-vous su deviner de quel instrument il s'agit?
Ça déménage?
Ouais.
C'est vous qui jouez ça?
Ouais.
Wow.
C'est le dernier disque que j'ai fait avec Adviel Kepoura. Et j'ai envoyé l'enregistrement à la compagnie aux États-Unis. Un des producteurs de la compagnie qui me téléphone, il dit donc le morceau, là, tout ça, c'est de la vielle électrique ou c'est de la guitare électrique? Je dis c'est de la vielle électrique. Yeah! Il avait gagné le pari.
Ah, je me sens un peu moins profane.
Annick, tu m'as donné envie de danser une bonne bourrée auvergnate.
C'est bien. J'aimerais bien essayer ça.
Peut-être
aussi.
Pas la vielle électrique en dernier.
L'aviez-vous découvert, vous?
Aucune chance. Sincèrement, aucune chance. Comme Maurice disait à la régie, c'est pas du Jimi Hendrix, où on était comme certaine. Ce que j'ai adoré, par contre, c'est la façon dont il dit que ce que lui aime, et c'est que c'est un son animal qui ramène à la terre, qui entre dans la terre. C'est comme s'il y avait une partie de noir. C'est comme si ça nous permettait de se défouler. C'est comme s'il y avait une espèce d'effet catharsis là-dedans.
Oui. Et c'est un peu pareil comme le violoncelle ou tous les instruments qu'on porte vraiment proche de soi. Là. Il y a une espèce de... C'est comme une communion entre l'instrument et l'estomac, finalement, là, la cage thoracique.
Oui. Mais je fais le parallèle avec la semaine dernière où on parlait d'une flûte qui était utilisée dans la méditation, qui nous permettait de nous recentrer. Là, c'est comme, brah, non, on sort. Puis les deux sont bons. Les deux, je pense, en tant qu'humain, sont nécessaires. C'était très, très, très intéressant.
Bien, alors, si vous voulez continuer l'exploration de la vielle, ou essayer de trouver les différentes sonorités de la vielle dans différentes pièces musicales.
Si vous avez besoin de vous défouler d'une nouvelle façon, d'une façon innovatrice, allez-y avec la vielle électrique.
Alors, vous pouvez aussi vous procurer, si vous n'avez pas de vielle, vous pouvez vous procurer 4 DCD de Adviel Kepoura sur iTunes. Adviel, comme Advienne, mais Adviel Kepoura, voilà, c'est le nom du groupe. Et lorsque je vous parlais des Mille et une vies de M. Tonon, il poursuit maintenant sa carrière de musicien en jouant de l'accordéon. Alors, il a commencé en tant que claveciniste et maintenant, il est rendu à l'accordéon. Et vous pouvez l'écouter sur son CD « Accordion Masters of the Diatonic », donc, et également disponible sur iTunes. Et la semaine prochaine, j'en profite pour vous dire qu'on rencontre Gilles Plante. D'ailleurs, M. Tonon et M. Plante ont souvent joué ensemble dans différents groupes. Alors, pour un avant-goût de notre rencontre la semaine prochaine, sachez que M. Plante sera en concert ce dimanche 15 juillet à 11h au Musée de la Maison Saint-Gabriel. Et je vous convie donc à écouter mon reportage la semaine prochaine, même heure, même poste.
Merci beaucoup, Annick Filion.
Merci.
Merci. Je vous propose 5 façons rapides et efficaces de sauver la planète. Parce que sauver la planète, c'est quand même un lourd et grand défi, grande responsabilité, mais à coup de petites choses, on peut y arriver. Tout d'abord, commencer à utiliser des pailles en stainless steel, ça s'avère une belle alternative aux 500 millions de pailles jetables utilisées quotidiennement aux États-Unis seulement. Utiliser des lingettes de coton organique réutilisable également. Utiliser une boule de laine comme assouplissant dans la sécheuse. En quatrième position, utiliser des sacs réutilisables, même pour les fruits et les légumes, ou leur trouver une seconde, voire une tierce utilité. Et en cinquième position, choisir du papier d'emballage réutilisable pour les cadeaux dans le temps des fêtes. Ce sera 1 million de tonnes de papier gaspillé qui sera réchappé en Amérique seulement. C'est incroyable, là.
Chez nous, on prend les sacs en papier qu'on peut acheter au Dollarama, là, et il est tout à fait admis et accepté que tu le réutilises pour donner un cadeau à quelqu'un.
Le sac qu'on met du papier de soie dedans, oui. Là, et qu'on met la petite... Mais oui, c'est mais ça, mais tant qu'on le brise pas, mais c'est moins tentant de le briser. Eux, on peut les réutiliser sans problème quand même.
Vous écoutez... Aime l'été.
Alors, re-bienvenue tout le monde à Aime l'été en cette édition du 13 juillet 2018, ma dernière avant mes vacances. Christiane Campagna, je suis en compagnie d'Emmanuel Robitaille qui, elle, continuera d'être fidèle au poste et même plus d'une fois par semaine.
Effectivement, je suis là... Beaucoup de fois par semaine.
Moi, pas de vacances.
Moi, je ne prends pas de temps. Mais moi, j'adore être ici, donc c'est correct.
Alors, pour ce dernier droit de l'émission, on parlera à Yannick Mainville, qui donnera toute une série d'activités, de sorties à faire dans son coin. Et on terminera ça avec Maxime Despomerleau, qui, elle aussi, nous fera des suggestions de sorties culturelles.
Seul au monde, un funambule qui cherche à s'agripper. Je perds mon élan à petits coups de vin. J'ai peur du vide, de même les pieds dans le béton. Y'a rien aux alentours, y'a rien. M'enveloppe et qui m'encombre. Je me balance sur un fil usé depuis toujours. Je me suis perdue en chemin. J'ai jeté mon compas. J'ai essayé de trouver un sens à mes vautours. Mais y'a rien aux alentours. Y'a rien. Pour une sortie de secours, j'ai couru à travers des tempêtes avant d'arriver au bord de la falaise. J'ai cherché, j'ai tant cherché, mais y'a rien. Aux alentours, y'a rien aux alentours. Dans une salle comble, je suis seule au monde, un funambule qui cherche à s'agripper. Je perds mon élan petit coup de vin. Si je saute, es-tu quelqu'un pour m'attraper?
On vient d'entendre Caroline Savoie qui nous chantait aux alentours à AM l'été.
Et nous avions justement choisi cette interprète du Nouveau-Brunswick puisqu'on s'apprête à parler avec Yannick Mainville qui est à Moncton. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va très bien.
Alors, cette semaine, tu nous es là pour nous proposer des sorties, des activités à faire par chez vous. On commence avec le village historique acadien.
Oui, bien c'est sûr que à l'intérieur du Nouveau-Brunswick, il y a plusieurs régions, puis on commence avec la péninsule acadienne. Le village historique acadien est une attraction touristique, c'est un site vivant. Plus de 40 bâtiments historiques relatant l'histoire des Acadiens de 1770 à 1950. Toute la première phase, il y a plus de la moitié des bâtiments qui sont d'origine, donc la première maison de 1770 a été déplacée dans la région de Caraquet. Restauré pour vraiment démontrer comment que les Acadiens vivaient à l'époque. Puis c'est des interprètes en costume d'époque qui cuisinent, qui vivent durant le jour comme les Acadiens vivaient à l'époque. Puis tout c'est un site historique qui va depuis 40 ans. C'est sûr que tout est accessible au niveau du village. C'est un super beau site historique. Puis c'est une belle attraction. On peut même passer une journée ou deux à l'intérieur de cette attraction-là.
Et le parc écologique, la MEC, ça va ensemble?
Non, c'est deux régions différentes.
OK. Je les avais dans le même point, c'est que je m'excuse.
Non, il n'y a pas de problème. L'éco-parc écologique, dans un autre domaine d'intérêt, le parc écologique de la MEC représente... la diversité, on peut voir la diversité des différentes plantes, des différentes arbres, forêts qui se passent, qui y a dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. Et c'est sûr que on débute la visite avec sur une longue passerelle en bois qui nous permet d'admirer le paysage, d'admirer la rivière ou la baie de la Mecque. Puis ensuite, on rentre dans un petit sentier très accessible, très large, tapé, qu'on peut découvrir, là, que ce soit une forêt boréale, mais il y a plus la forêt acadienne, donc chez nous, avec des différents types de tout qu'est-ce qui se propose, avec autant les insectes, les papillons, les différentes espèces.
Donc, pour découvrir la nature du Nouveau-Brunswick.
Oui, exactement, de qu'est-ce que la nature du Nouveau-Brunswick, puis qu'est-ce qu'on a comme espèce chez nous.
Et maintenant, le phare de Miscou, qu'est-ce qu'on y découvre? À part un phare, j'imagine, mais...
Oui, c'est sûr que le phare de Miscou, c'est une super belle attraction. C'est au bout, à la pointe nord, complète nord de la péninsule acadienne, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. Le phare de Miscou est encore en opération. C'est un phare qui date de 1886. Il y a une troisième génération de Fresnel, de lumière qui sert de garde pour les pêcheurs à l'intérieur de ça. Et c'est un musée, c'est un phare d'origine. Donc, là-bas, directement à Miscou, on se permet de directement explorer le long de la baie des Chaleurs. On voit toute la baie des Chaleurs, l'embouchure. Puis c'est une très belle attraction à voir qui nous permet de découvrir la pointe de la péninsule acadienne, mais aussi de découvrir les différents aspects. Puis juste avant d'arriver au phare, c'est sûr que là, on est en juillet, donc on est moins... on est moins à cette époque, mais on appelle ça une mer rouge ou un champ rouge. Vous avez peut-être déjà vu des photos dans les guides d'information touristique du Nouveau-Brunswick. C'est de la tourbe. On est un grand producteur de tourbe chez nous. Et la tourbe change de couleur à l'automne, qui fait un champ complètement rouge, qui fait des super belles photos. Surtout en début mi-septembre, ça fait des super belles photos de cartes postales. Donc, on est fait.
Et quand on parle des îles Mille Trésors, on parle de quoi?
Les deux îles Mille Trésors, c'est un projet qui a été initié en 2009. C'est un projet pour découvrir toutes sortes de différentes activités qui est proposées à l'intérieur des îles Lamekiniscou. Que ce soit un centre magique de sculpture fait par un sculpteur, c'est une cinquantaine de sculptures de bois. Que ce soit des bâtiments historiques, patrimoniaux, comme l'église, pour découvrir le quai, découvrir le parc écologique, entre autres, fait partie de ça. Découvrir des petits trésors qui sont un peu partout. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec ces trésors-là, c'est que il y a un genre de petit concours, une petite map qui a été réalisée. Donc, on peut passer sur les îles de la Mekinisku avec un genre de petit passeport, puis aller visiter tous les petits trésors que l'on offre, et ensuite, on peut remplir leur passeport rempli, complété, puis l'envoyer, puis pouvoir avoir la chance de gagner. Je crois que c'est un iPad cette année qui est tiré. Donc, ça permet de découvrir la région, mais en même temps, de mettre quelque chose de plus excitant aussi dans la découverte de la région au niveau touristique. Puis c'est un beau projet qu'ils ont fait au niveau de la peinture.
Mais disons que ça nous donne le goût de participer quand on sait qu'on peut gagner un iPad, en plus d'apprendre des choses, en plus de trouver ce qu'on regarde beau. Je veux dire, oui. Il n'y a comme aucune raison de ne pas le faire, tu sais.
Exactement.
Et évidemment, aller au Nouveau-Brunswick, c'est visiter des bons restaurants de fruits de mer.
Bien sûr que, veux pas, c'est ça qu'on est reconnu pour nos fruits de mer, la péninsule acadienne, Nouveau-Brunswick, que ce soit le crabe des neiges, que ce soit le homard. Là, on a terminé la saison du homard dans le nord. Le sud du Nouveau-Brunswick, sud-est, ça va être très bientôt, ça va être début août. Mais c'est sûr que si on veut manger des coques, si on veut manger des huîtres, par exemple, huîtres au soleil, huîtres à caraquettes, si on veut manger une bonne guédille au homard, une bonne poutine au coq aussi, il y a des super bons restaurants. Puis ça aussi, on essaye de mettre l'emphase sur notre côté gastronomique qu'on offre dans la péninsule acadienne. On est aussi producteur de bombes Le Chevalier, qui est d'un Arctic Char, qui est un projet pilote que il n'y a pas beaucoup de régions en Amérique du Nord qui le proposent. On est aussi producteur de bombes Chevalier, il y a quelques restaurants qui l'offrent également. C'est un poisson qui ressemble entre la truite et le saumon. Puis ça aussi, c'est unique à la région. C'est sûr que les petits attraits là, de fruits de mer, les attentes finales sont nombreux, puis on invite les gens quand ils viennent visiter à venir découvrir les produits locaux, puis déguster les produits locaux. Il n'y a pas peur de déguster les produits locaux, même avec des microbrasseries, des micro-distilleries, entre autres la distillerie Fils du Roi, qui était présente chez nous depuis plusieurs années déjà.
Eh bien, Yannick Mainville de Moncton, on vous remercie pour cette participation à MLT, puis on dit à tout le monde, allez faire un tour. Allez faire un petit tour du côté du Nouveau-Brunswick.
Venez chez nous au Nouveau-Brunswick, on vous attend.
Merci.
Merci. Bye-bye.
Quand je pleure, ça reste gris. J'ai tant dormi sous les étoiles. J'ai tant couru pour oublier. J'ai tant dormi sous les étoiles que même mon âme s'est envolée. Oh, envolée. Je sais, je suis. tellement suis au fond de mes cris que même quand je pleure, ça reste gris. J'ai tant dormi sous les étoiles, j'ai tant couru pour oublier, j'ai tant dormi sous les étoiles que même mon âme s'est envolée.
Marjo, je sais, je sais.
Merci Maurice. Maurice qui a ouvert nos micros à moi et à Christiane pendant la chanson de Marjo parce qu'on la chantait à tue-tête et on a eu très, très peur que tout le monde nous entende. Parce qu'on aime Marjo et on n'est pas les seuls. Et Marjo est en show en fin de semaine. Maxime, t'es là pour nous en parler.
Oui, exactement. Écoutez, moi aussi, je faisais un petit peu de karaoké chez moi pendant la chanson, je l'avoue.
Mais tu sais, karaoké non appliqué, là, tu sais, aucune application là, ici, là, tu sais. En tout
cas. Oui, bien, Marjo, qui est en spectacle plusieurs fois cet été, apparemment, elle a foutu le bordel et incité le public à l'anarchie au Festival de la chanson de Tadoussac. Elle était aussi à Petite-Vallée, donc au début du mois de juillet, et elle est en spectacle ce week-end à Jonquière en musique, qui est le plus long festival de musique gratuit au Canada, dure 3 semaines. C'est la 29e édition qui prend fin ce week-end à Jonquière. Les spectacles sont offerts en plein air au Parc La Rivière au Sable, qui peut accueillir jusqu'à 14 000 personnes. Déjà, on a eu Voivode, Robert Charlebois, Kevin Parent qui sont venus depuis le début du festival. Ce soir, c'est La Chicane. Et demain, le 14 juillet, on finit ça en grand avec un plateau double de Marjo et France d'amour. Donc, des femmes vraiment pour qui le rock est une seconde peau. Je pense que ça va lever. Le party devrait lever demain à Jonquière en musique.
Du côté de Marjo, Maxime, je veux savoir qu'est-ce qu'elle nous propose cet été, Marjo, parce qu'on n'a pas d'album nouveau. C'est une récapitulation de carrière.
Bien, en fait, elle a sorti un album il y a 2 ans qui était des collaborations avec plusieurs hommes de la scène québécoise, mais c'est plus une formule festival, donc on appelle ça plutôt un greatest hits, en fait.
Exact, oui, c'est ça.
Mais elle est en spectacle à quelques reprises cet été, le 21 juillet à Sainte-Agathe-des-Monts à la place Lanny. Le 16 août, c'est au parc Saint-Jean-Baptiste dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. C'est un spectacle qui s'appelle « Je lâche pas ». C'est en formule acoustique, en fait. Donc, elle est présente avec 2 musiciens. Alors, encore une fois, pour interpréter ses grands succès, mais cette fois-ci dans une formule plus intime que ses grands shows à plus grand déploiement. Et le 23 août, elle sera au show de Ruelle. C'est une série de spectacles à la Ruelle Gaboury, annexée au Parc Morgan dans Hochelaga-Maisonneuve. Les shows de Ruelle, ce sont des spectacles extérieurs gratuits. C'est la 3e édition cette année. Et croyez-moi, ça a pris de l'ampleur avec les années. Au début, ça a vraiment commencé dans une ruelle, tout petit, avec quelques centaines de spectateurs. Maintenant, c'est 10 000 personnes qui se déplacent pour voir les spectacles. Les autres artistes à venir, le 26 juillet à La Claire Ensemble, le 9 août, Canaille, et on termine le 23 août avec Marjo.
Incroyable. Et on répète que Marjo, elle est à Jonquière pour Jonquière en musique le 14 juillet, donc en fin de semaine. Par contre, pour les gens qui sont pas près de Jonquière, on a le Music Fest Mira au Camping Sainte-Madeleine les 14 et 15 juillet également.
Oui, exactement. Donc, ben en fait, c'est le 13 et 14 juillet. Ah. Ça commence ce soir, donc au Camping Sainte-Madeleine en Montérégie. C'est la 2e édition du festival à saveur country qui vise à amasser des fonds pour la Fondation Mira, qui, comme on connaît, forme des chiens guides et des chiens d'assistance. L'an dernier, c'est Paul Darège qui avait inauguré le Music Fest Mira. Ce soir, c'est le spectacle conjoint de Brigitte Boisjoli et David Thibault sur la route du Tennessee, qui reprennent ensemble les succès de Patsy Cline, Elvis Presley, Johnny Cash aussi, donc c'est vraiment un répertoire américain très connu. Et demain, c'est Patrick Normand qui présentera le spectacle de sa tournée « Bonheur partagé ». Si vous aimez le country, c'est vraiment l'endroit où aller en fin de semaine, mais j'ai encore mieux pour vous attirer au Music Fest de Mira. On propose des activités comme un parcours expérientiel avec des chiens guides et des chiens d'assistance, mais surtout des espaces de photobooth avec des chiots, une zone flat pitou, et on attend environ 1500 spectateurs. On leur souhaite un bon festival.
Je suis tellement conquise. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'on peut avoir, on peut prendre des photos avec des chiots dans un photobooth.
Ben
c'est
oui,
ce que j'ai compris. Ah, mon Dieu.
Oui, oui, parce qu'entre autres, on le sait, bon, ils sont tellement mignons et gentils, mais c'est important de ne pas déranger et de ne pas caresser les chiens Mira lorsqu'ils sont au travail.
Quand ils ont leur harnais, c'est-à-dire.
Exactement. Mm-hmm. Alors là, c'est vraiment l'occasion de se lâcher lousse en fin de semaine. On peut aller caresser des chiots. Et les billets des spectacles sont en vente au coût de 45 $. C'est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés d'un adulte. Et évidemment, tous les profits sont remis à la Fondation.
Effectivement. Et le show Corpuscule, danse 3D, diversité, présente quelque chose également?
Oui, également, la compagnie de danse intégrée montréalaise, Corpuscule oui. Danse, est en spectacle ces jours-ci.
De laquelle tu faisais partie d'ailleurs. Tu as travaillé avec Corpuscule?
Oui, je travaille encore avec eux. Mais moi, ça va être l'année prochaine. Mais donc, c'est sous la direction de France Geoffroy, la directrice artistique. C'est 3D Diversité, c'est en fait un défi que Corpuscule Danse a lancé à deux chorégraphes québécois, Roger Sina, qui fait de la danse indienne contemporaine, et Zab Mabundu, danse africaine contemporaine, à venir partager leur culture et créer avec les danseurs de Corpuscule Danse, qui, on le rappelle, ce sont des danseurs avec et sans handicap. Donc, l'idée était de créer, à travers 16 cours donnés à l'hiver 2018, de créer des chorégraphies inspirées de leur, en fait, de leur style respectif. Donc, on invite le public à venir voir cette aventure chorégraphique aux couleurs de l'Inde et du Congo. C'est le 14 juillet au parc Walter Stewart, qui est dans Centre-Sud, dès 11h30. C'est dans le cadre du Festival des cuisines du monde. La performance va être suivie d'un pique-nique et il y aura à manger pour tout le monde. Et le 16 juillet, c'est au parc des Faubourgs, dans le cadre d'une représentation de Cinéma sous les étoiles, qui est présentée par Funambule Média. Donc, cette fois-ci, ce sera à 19h30. Alors, vraiment, C'est l'idée de mixer des types de danse, non seulement de revoir un peu des styles traditionnels au niveau contemporain, mais aussi de voir comment ces chorégraphies ont été adaptées à des danseurs avec et sans handicap.
Et c'est vraiment ce genre d'occasion-là dans des parcs, c'est vraiment pour ceux qui n'ont jamais vu de danse intégrée, c'est l'occasion peut-être de faire connaissance, de s'initier.
Absolument, et c'est ce qui est sympathique aussi dans ce type d'événement. Non seulement c'est gratuit et dans des lieux qui sont déjà accessibles à tous, mais c'est familial. Il y a aussi un moyen d'en apprendre plus sur la compagnie parce qu'elle va recommencer à donner des cours à partir du mois d'août, donc à retourner dans ses cours réguliers pour l'automne. Et c'est une visibilité qui est donnée de plus à ce courant de la danse contemporaine qui existe, qui est très fort, entre autres en Europe et aux États-Unis, qui est un peu moins connu au Canada et au Québec. Donc, c'est vraiment l'occasion. En fait, on peut, en fin de semaine, rencontrer trois types de danses différentes avec lesquelles on n'a plus de contact parfois.
Mais merci beaucoup, Maxime, pour toutes ces sorties. Puis on se dit à une prochaine fois.
Tout à fait. Bon week-end à
tous. Merci, Maxime. Bye.
À bientôt.
On a comble. Combien de bonnes nouvelles on a depuis le début de l'année ou même actuellement qu'on peut se dire que sur la planète, ça va bien parce que tu le sais. Oui. Et vous savez aussi à la maison que j'aime ça, savoir que ça va bien sur la planète. 5 bonnes nouvelles pour la planète en rafale. En Australie, le long de la côte du Queensland, les dugongs ou dugongs, je m'excuse pour les gens qui connaissent bien cette race animale.
On s'excuse auprès de nos auditeurs australiens.
Sont passés de 600 individus restants de cette espèce en 2011 à plus de 5000 en 2018 et sont donc officiellement hors de danger d'extinction, ou du moins s'en retirent de manière significative. En Inde, l'État du Madhya Pradesh a battu un record de reforestation, dis-je, en plantant 66 millions d'arbres. En 12 heures, je répète, 66 millions d'arbres en 12 heures, oui, c'était de l'arbre, mon ami.
Il y avait de la main-d'œuvre.
Il y avait de la main-d'œuvre. En Nouvelle-Zélande, cette fois, le statut du kiwi d'Okarito, c'est un oiseau et non un fruit, bien sûr, a passé de la zone critique à vulnérable, leur nombre ayant doublé depuis le milieu des années 90. C'est officiel, le Kenya a interdit l'utilisation, la vente et la production de sacs de plastique. Et au Canada, d'ici la fin de l'année, la chasse au grizzly sera rendue illégale en Colombie-Britannique.
Vous êtes amateur de jeux de société, vous pouvez aller faire un tour au Jardin Gamelin à côté du métro Berry-UQAM et à tous les dimanches de 14h à 19h jusqu'au 30 septembre, il y a des animations données par le club de jeux Randolph. Alors on invite toutes les familles à aller faire un tour et à s'initier aux jeux de société, donc au parc Émilie-Gamelin qui est parfaitement accessible.
Et on le sait que des jeux de société, moi je suis fan de jeux de société et ça coûte cher, donc allez les essayer avant de les acheter. C'est vraiment une bonne opportunité.
Voilà.
Sincèrement.
Aussi, vous pouvez aller faire un tour au Musée Stuart pour fêter la fête des Français demain. Vous êtes invité à un pique-nique dans la cour organisée pour l'occasion. Allez sur le site du musée pour avoir les détails, là, parce qu'il y a un combo que vous pouvez acheter pour avoir la visite du musée et le déjeuner sur l'herbe à la française. C'est aussi un endroit où vous pouvez aller les samedis soirs de feux d'artifice pour voir les jeux. Alors, c'est ce qui conclut l'émission Aime l'été d'aujourd'hui. Un grand merci à nos invités Yann Kestens et Bernard Gravel. Un grand merci aussi à nos chroniqueurs. Yannick du Nouveau-Brunswick, il y avait Maxime Despomerleau à la culture, il y avait Annick Fillion avec ses instruments mystérieux. C'est Maurice Bauduc aujourd'hui qui assurait la mise en onde. Et on doit, comme d'habitude, une pierre chandelle aux recherchistes Anne-Laure Janson et Catherine Bourderon.
Sans oublier Clotilde Sey à la réalisation. Et je veux dire à nos chers auditeurs et aussi que tu quittes, oui, Christiane, et que je ne serai pas seule à la barre de l'émission le vendredi. C'est François Brodeur qui prendra ta place pendant tes 3 semaines de long et merveilleux et sûrement chaud congé, si la tendance se maintient.
François, vous avez peut-être entendu à l'émission Le quotidien des quotidiens cette semaine où il remplaçait Hélène Denis. C'est notre émission où tous les jours, on vous lit les journaux. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la page de Canal M, sur notre Facebook, sur notre Twitter, pour les commentaires, le 514-1999-poste 220.
Bonne fin de semaine!